Je m'entretiens ce matin avec la chanteuse mezzo-soprano Anne Bertin-Hugo qui donne en fin de semaine prochaine avec l'ensemble Oriscus son concert dédié à Hildegard de Bingen. C'est très précisément le vendredi 25 mars à 20h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Une soirée proposée et organisée par les amis de Radio Présence autour de cette personnalité fascinante, Hildegard de Bingen, Hildegard von Bingen, abbesse bénédictine allemande du XIIe siècle, à la fois mystique, médecin, nutritionniste, auteur et donc compositrice, sans doute la première en Occident. Hildegard a été faite docteur de l'Église en 2012 à l'initiative de son compatriote, le pape Benoît XVI. Bonjour Anne Bertin-Hugo, comment lorsqu'on est musicienne, on en vient à se passionner pour ce personnage? Parce que vous concernant, je sais qu'il s'agit d'une passion assez ancienne qui va bien au-delà du seul aspect musical.
Oui, bonjour. Effectivement, ça date un petit peu maintenant. Ça fait une vingtaine d'années que je me passionne pour ce personnage. Et vous l'avez très bien présenté. Et c'est vrai qu'elle a de multiples aspects. Et donc, plus on la connaît, moi, ma porte d'entrée, c'était effectivement la musique. Mais petit à petit, je me suis de plus en plus intéressée à sa personnalité qui est extrêmement riche. C'est une femme avec beaucoup, beaucoup de caractère puisqu'elle a fondé un des premiers monastères de femmes, indépendamment des monastères d'hommes, puisqu'à l'époque, les monastères de femmes étaient sous la tutelle des monastères d'hommes. Et elle, en fait, on avait un petit peu marre de voir les dots, notamment de ses sœurs, parce que c'était des monastères aristocratiques, partir chez les moines. Et donc, entre autres soucis, et donc elle est partie fonder son monastère toute seule avec les sœurs qui l'ont suivie. Elles ont bâti avec les habitants du village ce monastère. Et puis, on sait qu'elle est morte quand même très âgée, à 81 ans. Elle a parcouru l'Europe pour donner des prêches dans les cathédrales. Le pape lui demandait des conseils, Frédéric Barberousse, les empereurs de l'époque. On a des traces écrites de ses lettres avec une verve et une virilité, comme elle disait elle-même. Elle parlait de cette virilité qui est une force de vie, qui traverse toutes ses lettres et qui sont fascinantes. Donc, c'est assez facile d'être séduit par ce personnage.
Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a bouleversé dans ses écrits, ses conceptions, sa vision de la vie et du monde? Alors, je crois qu'il y a un rapport très fort à la nature et à la beauté.
Oui, alors spécialement à la nature. Donc, c'est aussi une femme du XIIe siècle baignée dans la pensée de son époque et qui a vraiment une conception qu'on appelle holistique du monde. Donc, c'est un terme qu'on emploie énormément aussi aujourd'hui, pour dire que chaque chose est unifiée. Donc, elle a une vision anthropologique en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Elle en parle énormément dans tous ses écrits. On a la fameuse phrase qui dit que le corps... attendez, je vais essayer de me souvenir, là, ça ne revient pas tout de suite. Mais il y a une sorte de gamme entre l'âme et l'esprit qui joue sa gamme pour essayer d'accorder le corps avec. Donc, elle a vraiment cette vision tripartite et elle voit aussi une unité entre l'homme et la nature, l'homme et le cosmos, l'homme et Dieu, l'homme avec lui-même, et donc un rapport à la nature qui est extrêmement respectueux et qui nous inspire beaucoup aujourd'hui quand on lit ses écrits. Et d'ailleurs, quand c'est assez d'actualité, c'est très très fascinant, quand elle parle de la pollution de l'air, donc au XIIe siècle, ça fait un petit peu bizarre, mais quand on le relit aujourd'hui, où elle nous dit que cette pollution de l'air est créée par la méchanceté des hommes, en fait. C'est assez interpellant, entre autres choses, qu'on trouve dans ses écrits. Voilà.
Oui, pour vous, elle reste très, très actuelle. Ses écrits restent très actuels.
Voilà, très actuelle. Alors, de par, effectivement, ce dont je viens de vous parler, mais aussi parce qu'elle propose, alors ça, c'est un peu contre toutes les idées préconçues qu'on a sur le Moyen-Âge, mais... En tout cas, elle donne sa place au corps d'une manière très particulière en disant combien il est précieux et combien il faut en prendre soin. Et donc, elle nous a laissé, entre autres écrits, toute la science médiévale sur le soin du corps, donc comment l'alimenter comme il faut, comment trouver le bon aliment pour soigner la petite maladie ou la grande qu'on peut avoir. Donc, en tout cas, en essayant d'en prendre soin et pas du tout de le compter pour rien. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, contre toutes les idées préconçues qu'on pourrait avoir à cette époque. Et en fait, pas du tout, parce qu'encore une fois, je le redis, elle a vraiment cette notion de l'égalité entre le corps, l'âme et l'esprit et de cette unité qu'il faut chercher.
Oui, parce que je l'ai dit, elle était aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui nutritionniste. Elle a laissé des livres de recettes de cuisine.
Voilà, alors parmi les choses bien connues qu'elle nous a laissées, il y a l'épeautre, bien sûr, qui est vraiment la céréale hildegardienne, entre guillemets. parce que paraît-il, alors les médecins se sont penchés hein, sur les scientifiques, sur les propriétés de cette céréale, et elle nous apporterait, je crois, environ 90% de ce dont on a besoin. Voilà, entre autres choses, il y a aussi le fenouil, hein, qu'elle appelle le légume qui rend joyeux, et puis d'autres épices, notamment la cannelle, qui a inspiré la recette des biscuits de la joie. Donc vous voyez, je n'arrête pas de parler de la joie. Chez elle, c'est un terme qu'on retrouve très très fréquemment.
Voilà, bah, toutes les multiples facettes de ce personnage fascinant, je le répète. Parlons de la musique d'Hildegard de Bingen maintenant, pour nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas du tout. À quoi ressemble-t-elle? Comment on pourrait la décrire? Est-ce qu'elle s'inscrit pleinement dans celle de son époque, le chant grégorien tel qu'on le pratiquait au XIIe siècle?
Alors, elle s'inscrit dans la tradition grégorienne, ça c'est une évidence. Les musicologues semblent dire que à cette époque, dans cette région, elle n'est pas forcément la seule à écrire dans le style dans lequel elle écrit. Mais en tout cas, c'est quand même particulièrement remarquable. Déjà parce qu'elle signe elle-même ses œuvres, donc ça c'est quand même très très rare à l'époque. Elle tenait absolument à ce qu'on sache que c'est elle qui a créé ses compositions. Donc je rappelle, 12e siècle, une femme compositeur, parce que comme elle était visionnaire, elle disait que ses compositions ne venaient pas forcément d'elle-même, mais venaient des visions qu'elle recevait et donc venaient directement du ciel. Voilà, ça, c'est la raison pour laquelle elle accordait aussi beaucoup d'importance à la figure des anges, puisque c'est les 9 chœurs des anges qui chantent dans le ciel. Voilà, mais à côté de ça, effectivement, sa écriture est très très virtuose. C'est la racine grégorienne, puisqu'elle utilise encore les modes grégoriens qu'on connaît, et qui datent vraiment des racines profondes de la chrétienté, peut-être même encore avant. Il y a 8 modes, donc différents, et elle voyage entre ces modes et nous propose une musique qui ressemblerait à un chant grégorien extrêmement orné. Voilà, et très virtuose, et on dit que vraiment le niveau vocal de cette époque était très très élevé, parce que on a des chants qui couvrent 2 octaves et demie tessitures, ce qui est vraiment immense. Et donc ça suppose vraiment d'avoir une technique vocale très très affûtée, très très travaillée. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle a influencé les compositeurs de son temps et même ceux qui ont suivi?
Alors pour ça, je ne sais pas vraiment exactement. Je sais qu'elle a elle-même retravaillé au cours de sa vie. Elle a été très influencée par des réformes liturgiques. Donc on distingue notamment 2 périodes dans son écriture, une période vraiment très ornée, une période un petit peu plus austère. Par la suite, la polyphonie a vraiment pris le pas. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment une suite à cette
Une
évolution.
filiation, oui.
Voilà.
Alors pour se faire une idée de la musique d'Hildegard de Bingen et du programme de votre concert du 25 mars à la cathédrale Saint-Étienne, nous allons vous écouter interpréter une pièce composée par Hildegard au Pastor. Au Pasteur, pièce d'Hildegarde de Bingen, chantée par Anne-Bertin Hugo. Est-ce que ça, c'est vraiment typique de l'art d'Hildegarde?
Alors là, on est un petit peu dans la deuxième partie justement de son œuvre, hein, qui est un petit peu plus sobre, hein, que la première partie, qui est extrêmement virtuose. Mais on reconnaît quand même bien les accents mélodiques et puis bon, la racine grégorienne de ce chant.
Est-ce que, entre les chants que vous allez interpréter, vous présentez un peu ce qui va suivre, ou donner des explications sur les textes que vous chantez, ou peut-être des anecdotes sur Hildegarde elle-même?
Je n'ai pas bien compris votre question. Vous voulez dire
Alors, est-ce
pendant
que
le
entre
concert?
les chants que vous allez donner lors de votre concert du 25 mars, il y a des
Oui.
présentations, des textes, vous donnez quelques explications ou des anecdotes?
Oui, absolument. Le concert, il est construit en quatre parties, justement pour essayer de faire un petit voyage dans la modalité grégorienne et permettre au public d'avoir un aperçu, ou en tout cas d'essayer d'entrer un petit peu dans ce langage qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'on a vraiment une oreille très verticale, entre guillemets, qui se focalise sur l'harmonie. Là, on est dans une musique vraiment monodique, donc pour nos oreilles, c'est assez lointain finalement. Et donc, pour essayer de permettre au public de distinguer un petit peu les différences et les finesses qui parcourent les modes grégoriens, notre programme, il est construit en quatre parties, puisqu'il y a huit modes grégoriens qui sont affiliés par deux. Et donc, on présentera avec Colin, l'accompagnateur instrumentiste, polyinstrumentiste, chaque partie qui parcourt à la fois quelques chants grégoriens et des chants d'Hildegarde qui sont quand même très remarquables. Je crois qu'ils pourront faire aussi la différence entre vraiment le style grégorien beaucoup plus épuré et puis le style d'Hildegarde beaucoup plus orné.
Vous avez parlé de Colin Heller, donc le polyinstrumentiste qui va vous accompagner le 25 mars à la cathédrale Saint-Étienne. De quels instruments va-t-il jouer pour donner une idée à ceux qui nous écoutent?
Alors, il va jouer des instruments qui sont vraiment proches de cette époque, notamment du XIIIe siècle. Il a certains instruments qu'il a fait lui-même construire sur des copies de tableaux qu'il a pu remarquer. En tout cas, il s'agit de la systole et de la guitterne. Et puis après, on a des instruments, des vielles à clef. On sait que les chants à cette époque étaient accompagnés probablement par des instruments à cordes. Donc là, il n'y aura que des instruments à cordes pincées ou à cordes frottées. Et ça permettra de découvrir aussi ces instruments, leur sonorité, et puis d'avoir une certaine variété entre des chants plutôt a cappella. Il y aura aussi quelques cloches pour ponctuer les respirations entre ces chants. Et puis voilà, ces instruments à cordes qui leur donnent, qui leur proposent comme un écran pour pouvoir se développer et s'épanouir.
Ce concert a lieu à la cathédrale Saint-Étienne, je le rappelle. Est-ce que vous connaissez ce lieu?
Alors j'y suis venue il y a quelques années et je l'avais trouvé extrêmement surprenant, parce que je me souviens qu'il y a plusieurs parties de cette
L'architecture est un
cathédrale.
peu particulière, oui.
Voilà. Et donc j'ai hâte de revenir dans ce lieu, parce que l'idée de ce concert, c'est aussi d'exploiter l'architecture du lieu. On essaie de proposer au public vraiment de redécouvrir avec les oreilles l'architecture du lieu. Donc il y a une certaine spatialisation du concert qui permet au public de redécouvrir, oui, vraiment d'entendre le son un petit peu qui vient de toutes parts dans cet édifice. Donc j'ai hâte d'y revenir. La première fois que je suis venue, je n'ai pas chanté. Donc voilà, ça va être une découverte de chanter dans ce beau monument.
Eh bien, on a hâte d'y être aussi. Merci beaucoup, Anne-Bertin Hugo. Je rappelle que votre
Merci à vous.
concert dédié à Hildegarde de Bingen est donné vendredi 25 mars à 20h30 à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse avec l'ensemble Auriscus, Colin Heller. J'ai déjà eu l'occasion d'y assister lors du festival de Rocamadour. C'est vraiment magnifique. J'invite donc chaleureusement ceux qui nous écoutent à réserver et acheter leur place pour cette soirée en se connectant à l'adresse www.festig.net/billets/les amis de Radio Présence.